Quel est le temps de l'information? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui, je crois, à l'heure de l'accélération, de l'urgence, de la communication à outrance, à l'heure de la défiance aussi envers ceux qui la font, la sélectionnent et la diffusent, l'information. On l'a bien vu ce week-end, il y a eu un problème de temps. Vous l'avez fait remarquer, un problème de priorité, de quoi faut-il d'abord parler, là, tout de suite, maintenant, parce que l'information, on l'associe toujours au présent pire, au plus que présent, à ce temps malade des chaînes de télévision ou de radio, des journaux ou des réseaux qui font dans l'actualité pure et dure. L'information, ce serait ça, ce serait l'immédiateté, là, tout de suite, maintenant, ça vient de se passer, c'est chaud, c'est vrai. Alors on le relaie, on appuie sur la touche replay, on veut être les premiers à relater les faits. Sauf que ça, si on y réfléchit, ça n'est pas de l'information. L'information, il faut bien que ça prenne forme, comme son nom l'indique étymologiquement, et ça ne peut pas se faire instantanément. L'information, vous le savez, c'est un recueil de renseignements, c'est une enquête, c'est un ensemble de connaissances sur quelque chose et ça prend du temps. Ça ne souffre pas l'immédiateté, le dur, le là tout de suite maintenant. Ou alors ce serait de la répétition, de la redondance, de perroquet en état d'urgence. Non, ça ne peut pas être le présent, le temps de l'information.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang 2. Et dans quel temps mon invité d'aujourd'hui nous informe-t-il? Dessinateur, caricaturiste, directeur de la publication de Charlie Hebdo, il fait partie de ceux qui ont échappé à la tuerie du 7 janvier 2015. 1 minute 49 secondes, c'est le titre de son livre, en librairie demain. Témoignage incisif, glaçant, sur l'avant, le pendant et l'après, d'un acte de barbarie qui a changé nos vies, à toutes et à tous. Bonjour Rhys.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
C'est moi.
Ce matin. Alors avant toute chose, parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne, hein. Pour vous, c'est quoi précisément l'information?
Bah, c'est une question qu'on se pose toutes les semaines quand on fait Charlie Hebdo. On a beau faire un journal satirique, la première chose à faire quand on fait de l'information, c'est déjà réfléchir. C'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que on est un hebdo, donc on a un petit peu plus de temps, on a une semaine pour un petit peu réfléchir un peu plus que les autres. Mais même l'hebdo, c'est quand même assez rapide.
Et c'est encore possible pour l'information d'être encore du côté du sens, plutôt que du côté de l'éternelle reprise et répétition pour vous?
Ah ben c'est ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre les choses. On fait des reportages. Enfin, il faut qu'on aille au contact de ce qui fait sens et de ce qui nous éclaire aussi, parce qu'on a besoin d'être éclairé. On peut pas faire un journal uniquement enfermé dans sa salle de rédaction. Il faut toujours aller au contact du réel, parce que Cabu disait, il avait une phrase, il disait en reportage on est toujours récompensé. Parce qu'on découvre toujours quelque chose. Donc, pour moi, l'information, c'est déjà soi-même découvrir. Et je dis, vous n'intéresserez pas les gens si vous-même, vous n'êtes pas, vous ne découvrez pas quelque chose. Voilà.
Elle vous dérange, l'information telle qu'elle est traitée aujourd'hui, Rhys?
Bah, ce qu'on voit, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça une information, c'est c'est une sorte de fil rouge, mais c'est pas de la réflexion. C'est vrai que la réflexion, on l'a 15 jours, un mois après. Donc oui, il y a une multitude d'événements qui nous sont presque imposés, mais c'est difficile de faire le tri. Et c'est même assez anxiogène, parce qu'on ne sait même plus très bien qu'est-ce qui est important et ce qui n'est pas important.
Vous pensez à quoi, là, tout de suite, maintenant?
Non, mais vous écoutez les chaînes d'info en continu, même quand je regarde, même sur des grands sites d'information de grands médias, tout est un peu mélangé. Un peu de people, un peu de politique, un peu d'international, donc c'est déstabilisant, parce que on est un peu livré à soi-même, en fait. La hiérarchisation, elle est un peu disparue.
Et le temps aussi. L'information, vous en avez été le sujet, Rhys, l'objet, le centre, pendant un bon moment. Avec le recul, quel regard est-ce que vous portez sur le traitement dont a fait l'objet la tuerie de Charlie Hebdo?
Il y a deux choses. D'abord, quand l'événement intervient, c'est un chaos total, d'abord pour les gens qui le subissent, mais je pense aussi pour l'environnement, pour les médias. Je crois me souvenir que je lisais le témoignage d'une personne à 17h, le 7 janvier à 17h, elle ne savait toujours pas si j'étais vivant ou mort. Donc 8h après, il y avait encore des choses qu'on ne savait même pas. Donc c'est vrai que c'est un peu... On pense qu'on est très bien informé, mais là, quand on est confronté à un événement en direct, on voit à quel point c'est difficile d'avoir des vraies infos fiables.
Oui.
Et c'est l'info, en fait, un événement, c'est le chaos. Voilà. Et l'information, c'est d'y mettre un peu d'ordre et d'y voir clair. C'est déjà d'y voir clair. C'est même pas de porter un jugement, c'est d'y voir clair. Il faut du temps pour y voir clair. Et c'est pas avant quelques jours, et même, je dirais, quelques mois, qu'on y voit clair. Moi, j'ai écrit ce livre à peu près 3 ans et demi après, parce qu'avant, j'y voyais pas clair. Il m'a fallu 3 ans pour y voir clair.
Et il y a d'autres effets. Vous écrivez « La presse est bien vendue. En ce mois de janvier 2015, notre journal semblait avoir été offert en sacrifice pour que d'autres puissent continuer à vivre. »
Ben oui, ça m'a fait un peu cette impression parfois.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ben quand je descendais à, comment dire, à la petite maison de la presse qu'il y avait dans l'hôpital où j'étais hospitalisé, je découvrais les journaux. C'est vrai que je voyais plein de journaux qui faisaient des unes là-dessus.
Mais c'est-à-dire qu'il y a eu une part d'opportunisme en fait.
Un peu parfois. Bon, après, c'est sûr, il faut informer. Bon, c'est évident qu'un événement comme ça a des répercussions, mais je voyais des journaux de people qui s'étaient jamais intéressés à Charlie Hebdo, qui du coup mettaient les gars de Charlie Hebdo en couverture. C'était surréaliste. Je les avais jamais vus. Ces journaux ne s'étaient jamais intéressés à Charlie Hebdo avant.
La surprise, le choc, quand est-ce que vous avez compris que les répercussions de l'attaque de Charlie Hebdo étaient bien plus importantes que ce que vous pouviez y croire, qui étaient mondiales même?
J'ai eu du mal sur le moment parce que après un événement, quand vous sortez d'un événement comme ça, vous vous protégez, vous vous réfugiez dans une grotte en fait. Vous avez plutôt envie de vous couper du monde. Mais c'est vrai que des fois, les gens me disaient des choses un peu bizarres, qu'il y avait ce slogan je suis Charlie, ouais. Qu'il y avait même un astronaute qui avait mis ça dans sa capsule. Mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque?
Qu'est-ce que ça veut dire surtout?
Ça veut dire, c'est une émotion, c'est un geste de solidarité. Il faut pas le. Moi, je j'ironiserai pas. C'est un geste qui fait quand même du bien. En tous les cas, ça veut dire que les gens ont été touchés. Mais c'est vrai que après, il faut réfléchir. Ça suffit pas.
Vous vous êtes posé, par exemple, vous, Rhys, la question de savoir si vous étiez Charlie.
Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Ce que je suis est déterminé par l'activité que je fais. Je dessine dans Charlie. Mais c'est vrai que je suis Charlie, je pense que c'est une phrase contractée. Ça veut dire je suis solidaire de Charlie, je suis
défendeur.
Ému par ce qui est arrivé. C'est une phrase raccourcie en fait.
Je défends la satire aussi.
Oui, voilà, c'est très large. Donc c'est une phrase d'adhésion, mais c'est vrai que c'est un peu comme les dessins satiriques qu'on fait, c'est toujours un raccourci. Voilà.
Oui, et ce qui est passionnant dans votre livre, ce que vous racontez, hein, c'est que très vite, grâce aux médias et aux dons qui sont venus renflouer la trésorerie de Charlie, votre journal s'est transformé en une sorte de marque. En quoi ce nouvel état des choses est-il venu menacer l'esprit de Charlie Hebdo à un moment?
Personnellement, moi, j'ai jamais douté de la solidité du journal, mais c'est vrai que comment reconstruire un journal avec les disparus, qui n'étaient plus là. Comment reconstruire un journal aussi fort, aussi pertinent? Donc je me disais ça allait être long et laborieux de reconstruire. Donc moi je savais pour avoir partager ses responsabilités avec Charles, que la gestion d'un journal, surtout satirique, surtout indépendant.
Oui.
Il faut gérer, effectivement, on a besoin d'argent. Mais tous les médias ont besoin d'argent. C'est un peu une hypocrisie quand les gens parlent de liberté d'expression, liberté de la presse. L'argent dans les médias, c'est le nerf de la guerre. Vous n'avez pas d'argent, ça ne fonctionne pas.
Je pensais revenir dans mon journal, je revenais dans un traquenard, page 134.
Bah oui, des fois j'étais étonné par des comportements, ça m'a un peu scié. Vous savez, les crises extrêmes dévoilent les personnalités. Il y a des gens qui ont été formidables, et c'est grâce à ces personnes que le journal a pu continuer. Puis il y a des gens qui sont un peu partis dans le décor, je dirais. Voilà. Et ça m'a. On était au milieu de morts, et il y a des comportements qui, pour moi, n'étaient pas dignes. Qui n'ont pas été dignes.
Vous avez pu les pardonner?
Non. Non.
Ce qui est quand même frappant dans le récit que vous proposez, risque de cet immédiat après Charlie, c'est la rapidité avec laquelle vous vous remettez au travail, faire en sorte que le journal continue d'exister. Mmh. Quel enjeu est-ce que c'était pour vous?
Il y avait plusieurs enjeux. Il y avait d'abord un enjeu personnel. Je me disais, je vais quand même pas arrêter de faire ce métier sous la contrainte de terroristes, d'espèces de fascistes, parce que c'est des fascistes, c'est une forme de totalitarisme qui s'est abattue sur nous. Donc déjà, pour moi, je ne vais pas changer ma vie à cause de ces gens-là. Et puis, il y avait un autre enjeu, c'est que je me dis, bon, on est quand même en France, quand même un pays, bon, quoi qu'on en pense, c'est un pays qui est symbole de liberté dans le monde. Si un journal disparaît sous les coups d'une attaque terroriste, c'est une image, c'est catastrophique. Mmh. Donc on s'est retrouvés, c'est ça qui était bizarre, d'habitude, quand on fait des dessins, on fait des commentaires sur ce que font les hommes politiques, mais on s'est retrouvés, nous, dans une situation politique.
Oui.
C'est qu'on est devenus des acteurs politiques de notre comportement, de ce qu'on allait réussir ou pas à faire avec le journal, allait découler des conséquences politiques. Est-ce qu'un journal, dans une démocratie comme la France, va disparaître ou est-ce qu'il va survivre et continuer à surmonter cette attaque terroriste? Donc on s'est retrouvé beaucoup plus que dessinateurs ou journalistes, on s'est retrouvés presque des acteurs d'une situation politique.
Un jour, les victimes en ont assez. Jamais on ne rééduque les blessés pour qu'ils recouvrent l'usage de leur liberté. Rien n'est plus difficile que d'être à nouveau libre. Comment retrouver sa liberté de penser, sa liberté d'expression quand notre carcasse grince à chaque mouvement? Comment retrouver son agilité d'esprit, son audace, quand chaque jour il faut rester humble face à son corps devenu celui d'un vieillard? S'ils n'y parviennent pas, les blessés et victimes demeureront pour toujours cloués en place publique sur la croix des martyrs. Alors c'est très fort. Comment on réapprend la liberté, Rhys?
Ben tout seul déjà. Tout seul, il faut se remettre à penser, il faut, y a que votre petite cervelle qui vous aide, personne vous aide. Voilà, c'est vos convictions, c'est vraiment une mise à l'épreuve de vos convictions, c'est l'épreuve ultime. Là, on voit si on est vraiment convaincu par tout ce dont on croyait avant. Et là, on voit si on y croyait vraiment. On voit vraiment la solidité, c'est une mise à l'épreuve.
Vous l'avez sauvé, vous, votre liberté?
Bah, j'essaye, modestement, un peu, ouais, peut-être, je crois quand même, ouais.
Celle chez qui il n'y a rien à sauver dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité bonne pour le vide, ordure. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 1er octobre? Rideau pour la soprano, la cantatrice noire américaine Jessie Norman s'est éteinte hier à New York. Elle avait 74 ans, immense interprète de Wagner, Mozart ou Verdi, sans oublier le jazz ou les spirituals. Elle avait connu le succès dès la fin des années 60 en gagnant l'Europe. On se souvient notamment de sa Marseillaise chantée à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française en 1989, Peace and Power. Always Kolkoa, le plus français des festivals américains. Le Kolkoa French Film Festival de Los Angeles vient de dévoiler son palmarès 2019. Résultat doublé gagnant pour J'ai perdu mon corps, le très beau film d'animation de Jérémy Clapin, déjà primé lors de la semaine de la critique à Cannes, qui en paraît 2 prix. Dans le reste du palmarès, on trouve notamment Les Misérables de Ladj Ly, meilleur premier film. Allez là.
Mesdames et messieurs, c'est une grande joie.
La moulaga, grosse moulada.
La grosse moula, le budget de la culture augmentera de 73 millions d'euros en 2020, a annoncé Franck Riester, pour un total de 8,3 milliards provenant directement du ministère. Parmi les principaux axes de développement, l'éducation artistique et culturelle pour les enfants et les jeunes, à hauteur de 98 millions, ainsi que le pass culture qui bénéficiera de 10 millions supplémentaires. Mais ça, c'est d'enfer, ça. Et enfin, on dit oui à Octobre Rose. C'est ce soir le coup d'envoi de la 25e édition d'Octobre Rose, campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et pour fêter son quart de siècle, le mouvement invite Catherine Ringer et la chanteuse britannique Dido à donner un concert gratuit en plein air à 20h30 au Trocadéro, avec en bonus l'illumination toute en rose de la Tour Eiffel pour l'occasion. C'est que du bon. Eris, invité exceptionnel de Boomerang ce matin, directeur de la publication et de la rédaction de Charlie Hebdo, pour ce livre événement, je le disais, 1 minute 49 secondes, un livre dans lequel vous écrivez « Je n'ai jamais frappé personne de ma vie, j'ai préféré dessiner pour le faire ». Quand est-ce que vous avez compris que le dessin pouvait être une arme, Eris?
Oh, je crois que c'est quand j'étais étudiant, parce que bon, c'était une période où on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, on a beau faire des études, bon, et puis j'avais toujours dessiné, mais j'avais jamais bien su quoi faire du dessin, et puis je me surprenais parfois à être agacé, révolté, et finalement le dessin, je me suis dit ben voilà, ça va peut-être me servir à ça, voilà.
Alors quelle arme est-ce que c'était précisément?
Oh, c'est un peu c'est défoulatoire, quoi. Voilà, on fait des dessins méchants, mais bon, il faut apprendre à être.
Ah, une arme de vengeance parfois.
Oui, oui, il faut apprendre à être pertinent. Il s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Ça vous oblige quand même à affiner un peu cette arme qu'est le dessin.
Et ça marche toujours.
Ah, Charlie, oui, c'est.
Bah, si je vous pose la question, oui. En fait, c'est parce que votre texte s'ouvre sur un aveu d'impuissance. Oui. À quoi bon écrire? À quoi bon dessiner?
Alors, c'est sûr que. Dans l'idée de raconter ce qui s'est passé, je pense que je pourrais pas dessiner quoi que ce soit sur ce qui s'est passé. Voilà. Donc donc il reste plus que l'écriture, mais même l'écriture, on se dit bon, même si on arrive à faire du mieux qu'on peut, dès le départ, je pense que dans le livre, je voulais un peu prévenir le lecteur et me prévenir aussi. On pourra pas tout dire. Voilà, il y a un moment donné, on se tape la tête contre les vitres. Il y a un seuil qu'on n'arrivera pas à franchir. On peut dire, j'ai essayé de dire le maximum que j'ai pu dans ce livre. Mais il y a toujours encore quelque chose qui, derrière, comme derrière l'horizon, quelque chose qu'on n'arrivera pas à atteindre.
Mais vous continuez à écrire et à dessiner quand même.
Sur ça, je sais. Bon, sur ce sujet-là, je ne sais pas si j'écrirai encore, mais oui, par ailleurs, oui.
C'est l'illusion de se sentir moins seul aussi, que d'écrire, que de dessiner.
Bah, c'est vrai que. Après ce genre d'événement, l'angoisse, c'est vrai, c'est d'être se sentir, c'est presque un peu une angoisse infantile, c'est de se sentir abandonné. Voilà, c'est, on se retrouve un peu comme un gosse, quoi. On a envie de les gestes de solidarité vous font du bien. Voilà. C'est pas, oui, le sentiment d'abandon est parfois angoissant.
Il y a une phrase qui m'a marqué. En se retirant, la sauvagerie a laissé place à la vulgarité. Elle fut l'autre violence infligée à nos personnes. De quelle vulgarité est-ce que vous parlez là?
Bah c'est vrai qu'après, passé l'émotion et la terreur de l'événement, il y a eu toute une espèce de cacophonie médiatique, une espèce de barnum qui a duré pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que ça me mettait mal à l'aise parce que je pense qu'après un événement comme ça, je pense qu'il aurait fallu être un peu plus digne, quoi. C'est vrai qu'on est devenus des petits animaux de médiatiques. Voilà, on nous regardait comme des grenouilles dans un laboratoire, quoi.
Elle est passée où, en fait, la violence après la sauvagerie des attentats?
C'est-à-dire dans...
Elle est en nous, en fait.
À moi, oui. Pour moi, ça n'a pas disparu. Parce que d'abord, le souvenir de la violence, on ne peut pas s'en débarrasser. Voilà, ça fait partie de vous. C'est comme les émotions qui vous construisent durant votre existence. Ben voilà, c'est une émotion qui s'est ajoutée à toutes celles que j'ai pu connaître depuis que je suis né, si je puis dire. Et donc, non, elle n'a pas disparu. C'est en nous.
Vous l'écrivez cette phrase, la violence elle n'a pas disparu, elle est maintenant à l'intérieur de nous, il n'y aura pas de reconstruction. Ces mots sont les vôtres et vous semblez si catégorique.
Non, le mot reconstruction me gêne un peu parce que c'est un mot qu'on utilise un peu systématiquement, mais quand on y réfléchit bien ça n'a pas vraiment de sens. On ne reconstruit pas des individus qui n'existent plus, on ne reconstruit pas des relations qui n'existent plus. Un journal, les relations humaines, c'est pas comme des briques de Lego qu'on fait tomber et qu'on reconstruit. Quoi.
À moins que reconstruire, ce soit rêver à la construction de quelque chose de nouveau.
Le terme reconstruire, on refait ce qui existait. Si on fait quelque chose de nouveau, on construit quelque chose d'autre. C'est pas la même chose.
C'est ça que vous préférez?
Oui, construire autre chose, oui, ça oui. Mais reconstruire ce qui a existé, non, c'est impossible.
Alors quelle autre chose faudrait-il construire?
Déjà, il faut continuer de vivre avec la vie qui nous reste. Quand on se dit, finalement, je suis vivant, que faire de ma vie? Il faut encore que je vive. Enfin, on est presque confronté à l'impératif d'avoir à vivre encore. C'est vrai que parfois, on pourrait presque se dire, finalement, j'arrête tout. Je disparais, je me mets un peu comme... dans la même situation que les victimes, je m'efface. Et il faut accepter l'idée, et c'est ça qui est dur, qu'on continue à vivre sans eux. Que nous, on a encore la vie à notre disposition et qu'eux l'ont plus. Donc c'est une épreuve, en fait, de continuer à vivre parce qu'on a l'impression de les abandonner, en fait. C'est un dilemme.
Voilà. Il reste des rêves, Rhys?
J'en sais trop rien. Oui, il y a toujours des rêves, peut-être pour les autres. J'essaye de faire en sorte que les autres en aient, en tous les cas.
On va reparler de tout ça, de ce qui reste, des rêves, hein, de ce qui a disparu, de ce qui vient, de ce qui fut, juste après un titre de lumière quand même, avec Macy Gray, qui reprenait en 2016 la grande chanson de rédemption de Bob Marley. Vous êtes sur France Inter avec Rhys, vous écoutez Boomerang, Redemption Song. My hand was made strong
ourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you hear me say, these songs of freedom, it's all I
sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il y a la douceur, évidemment, mais il y a aussi un peu de défiance, quelque chose de valeureux, de combatif dans son regard gris, les cheveux gris aussi qui lui tombent en deux mèches souples de chaque côté de son visage, figé dans une étrange adolescence, avec son sweatshirt et son pantalon marron. Ce matin, le dessinateur Rhys, invité de Boomerang pour son livre 1 minute 49 secondes, en librairie demain, un livre très important, on l'a compris, et j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce titre. 1 minute 49 secondes, c'est le temps de quoi ?
Bah, c'est le temps qui s'est écoulé entre le moment où les assaillants et les terroristes sont entrés dans les locaux et où ils sont sortis. Voilà, ça a duré, ils ont été présents dans les locaux juste 1 minute 49.
Quel poids est-ce qu'elles avaient, ces secondes ?
Bah, c'est-à-dire que vous, chaque seconde, vous vous dites que ça va être la dernière. Donc vous prenez conscience que vous êtes arrivé au moment ultime de votre vie, c'est le moment que tout le monde... Je ne vais pas dire craint ou imagine dans sa vie comment est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais mourir de maladie, est-ce que je vais mourir de ceci. Bon, ben là, j'avais la réponse. Ce matin, ben je savais, ben voilà, ça va se terminer ce matin, dans ce journal. Ma vie va s'arrêter ce matin. Et donc j'attendais le moment, j'attendais la seconde. Dans ces secondes qui se sont écoulées durant cette minute 49, je ne savais pas quelle allait être la dernière. Et je l'ai compté, j'attendais la dernière seconde.
Qu'est-ce que vous avez entendu ?
Bah d'abord, c'était des bruits assourdissants. C'était vous êtes dans une pièce comme ça un peu exiguë, des coups de feu, c'est assourdissant. Et puis on entend des paroles. Là, j'ai compris qu'il y en a un qui parlait à une deuxième personne. Parce que maintenant, on parlait tout à l'heure du temps de l'information. Là, vous êtes vraiment confronté dans l'information. Vous vivez un événement et vous ne savez pas ce qui se passe. Et vous ne savez pas combien ils sont. Vous ne savez pas où ils sont. Vous ne savez pas s'ils sont 3, 4 ou 5. Et j'ai entendu une voix que je ne connaissais pas parler à un autre. Donc je me suis dit, tiens, ils doivent être au moins 2. C'était une information. Mais je ne savais pas qui ils étaient. Et puis voilà, les coups de feu qui reprennent. Et au bout d'un moment, les coups de feu qui s'estompent.
Et là, le silence.
Ben oui. Ben, un silence trompeur, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait autour de moi. En fait, ils étaient là encore, ils bougeaient, donc il fallait surtout pas bouger, quoi. On est transformé en une espèce de petit animal. Voilà, on se protège, on se met dans un creux, on essaye de disparaître. Mais voilà, quoi, c'est. Et donc, on savait pas quand ça allait s'arrêter, en fait.
Après la tuerie, vous avez dû sortir des locaux du journal, et voilà ce que vous écrivez. Debout, j'ai eu la possibilité de voir la totalité de ce qui m'entourait. Pour la première fois, le dessinateur que j'étais ne parvenait pas à faire ce qu'il avait mis des années à apprendre. Regardez.
Bah oui, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour pas poser un regard sur ce qu'il y avait autour de moi parce que j'avais compris. J'avais pas le regard ne m'aurait rien apporté de plus quant à la compréhension de ce qu'il y avait autour de moi. Puis je voulais pas les voir comme ça. La dernière fois que je les ai vus, bah ils étaient debout, ils étaient vivants. Et puis voilà. Et puis c'est ça que je garderai d'eux. Et voilà, je voulais pas. C'est-à-dire que la mort, surtout dans ces circonstances, c'est un moment. La mort, c'est le moment d'intimité ultime. C'est vraiment quelque chose qu'on partage avec ses proches. Et là, je me suis retrouvé dans un événement où j'étais dans une intimité que j'aurais pas dû les voir comme ça. C'était pas à moi de les voir comme ça.
Comment on fait pour vivre avec ces images?
C'est surtout comment on fait pour vivre avec ce dilemme, cette situation. Je me dis que pour moi, ils sont toujours un peu vivants. Je les entends parler. Le souvenir des 25 ans que j'ai passé avec eux est plus considérable que le moment furtif de leur disparition.
Les raconter, c'est aussi les faire parler?
Bien sûr. Il faut les faire parler. Il faut encore entendre leur voix, encore entendre leur rire et puis regarder leur travail. C'était des dessinateurs, c'était des journalistes. Voilà, ils ont produit des choses qui encore aujourd'hui, quand on regarde leurs dessins, fonctionnent toujours.
Et l'histoire que vous racontez, Riz, c'est aussi l'histoire de deux sentiments qui hantent votre récit, celui de la honte et de la culpabilité. Ce sentiment de culpabilité, de honte vis-à-vis de ceux qui ne sont plus. Quand est-ce qu'il est né?
Je pense qu'il est né des années auparavant, à travers des expériences personnel, qui d'ailleurs n'avait rien à voir avec Charlie Hebdo. C'est des jalons de votre vie, vous êtes parfois confronté à la mort des autres, et déjà c'est des choses que j'avais déjà plus ou moins rencontrées. Alors c'était pas dans des circonstances aussi épouvantables, mais c'était quand même le même dilemme, c'est que vous êtes vivant, et vous êtes en face de gens qui ne le sont plus, et vous êtes presque gêné d'être encore vivant vis-à-vis d'eux.
4 ans et demi plus tard, vous les avez toujours, ces sentiments?
Oh, c'est pas seulement 4 ans, c'est toute la vie. C'est des sentiments qui accompagnent toute la vie. C'est pas quelque chose qui s'oubliera. Enfin, c'est structurant.
La force de continuer à vous battre pour vos idées, pour ce en quoi vous croyez, ça sauve de tout ça.
Ça sauve. Je sais pas si c'est fait pour sauver. Finalement, c'était déjà là avant. Donc tout n'a pas été détruit puisque c'est encore là. Et au moins ça subsiste. C'est déjà ça. Voilà, c'est ce que j'ai pu sauver. J'ai pu sauver au moins le désir de toujours faire du dessin, faire la satire. Ça n'a pas été atteint. Voilà.
Et puis vous sauvez aussi quelque chose de l'ordre de la mémoire, Riz, 4 ans et demi plus tard.
C'est vrai que des fois, l'angoisse tout à l'heure je disais la peur d'être abandonné, mais c'est aussi la peur que eux aussi soient abandonnés, oubliés. Comment la mémoire collective gardera en mémoire ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que des fois, je me dis que parfois c'est un peu, on oublie vite, c'est même parfois un peu superficiel. On parlait tout à l'heure, c'est vrai que les médias ont beaucoup parlé, mais je ne sais pas s'ils ont beaucoup expliqué. Et je sais pas que j'ai fait des portraits d'eux, parce que comme moi je les voyais, c'est des portraits vivants. Ils sont pas morts, ils sont vivants. Voilà, c'est comme ça que je les ai vus pendant 25 ans. Et donc c'est ça que j'aimerais communiquer aux lecteurs, c'est la vie qu'ils étaient. Voilà.
Vous avez écrit ce matin un texte vivant qui résonne étrangement avec ce parcours qu'on a commencé aujourd'hui sur l'information.
Oui, alors oui, on va demander d'écrire un petit texte. Bon.
Ah ben c'est moi, vous pouvez le dire.
Alors justement, Camus disait que le rôle de Charlie Hebdo c'était de venger ses lecteurs. On parlait de vengeance tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait un peu de ça. De les venger, c'est-à-dire d'être le porte-parole de leur colère et de leur révolte. Le problème aujourd'hui, c'est que les raisons d'être en colère n'ont jamais été aussi nombreuses. Ou plus exactement, que les sources d'information qui nous communiquent ces raisons de nous révolter sont devenues innombrables. On est en permanence submergé par un tsunami d'informations et on est tenté parfois de baisser les bras, épuisé par la tâche, pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de soi. On se demande parfois si cette masse d'informations qui nous tombe sur la tête tous les jours n'est pas organisée précisément pour nous décourager de nous révolter, en nous ensevelissant sous des coulées de boue d'informations. Les informations dégoulinent de partout, dans les journaux, à la télé, à la radio, sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, dans nos tablettes et même dans nos montres quand elles sont connectées. Il paraît qu'il y a même des montres connectées. Demain, ce sera, paraît-il, dans nos lunettes, des lunettes connectées. On appelle ça des lunettes intelligentes. Parce que des lunettes qui vous donnent la météo ou les cours de la bourse, ce sont des lunettes intelligentes. Alors que des lunettes qui vous donnent seulement une bonne vue, ce sont des pauvres connes. Demain, nous aurons aussi des chaussures intelligentes, des pantalons intelligents et peut-être même des slips intelligents qui nous permettront de rester connectés à l'info en temps réel, bien assis sur nos chiottes connectés, eux aussi en temps réel à la vie trépidante de notre tube digestif. Cette diarrhée d'informations nous donne parfois la nausée, car on a bien du mal à faire le tri pour distinguer les informations importantes de celles qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui est vraiment important ? La guerre du Yémen, au Yémen, ou le dernier mort tué par une trottinette ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? La fermeture de 8% des centres IVG, ou le 12e enfant de Kate Middleton ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? La forêt amazonienne qui brûle sous nos yeux, ou Ophélie Winter qui se gèle les miches dans sa voiture ? C'est vrai qu'on est, on ne sait pas quoi penser de tout ça par moment. Donc, j'ai envie de dire, comme tu peux le constater, mon bon Cabu, c'est peut-être encore plus dur aujourd'hui qu'hier de s'y retrouver dans ce gigantesque bordel qui est devenu l'actualité. Et encore, je ne t'ai pas parlé des fake news, qui d'après les experts devraient se multiplier dans les années à venir. Notre monde est devenu en permanence satirique. Tout ce qui nous entoure est satirique. Alors il n'y a plus qu'à prendre son crayon et dessiner tout ce cirque. Cela suffira peut-être à te venger toi aussi, mon cher Cabu.
Merci, Rhys, infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission et même de m'avoir fait rire. C'était une gageure quand même. Je rappelle que 1 minute 49 secondes publiée en co-édition Actes Sud, Les Échappés sort demain, que c'est un texte nécessaire, brûlant, vibrant. Tout de suite, les médias, Sonia Devillers, l'instant M, juste après ça.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery. Les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage derrière. Fifties, I'm fifties, dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie. En arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm fifties, I'm fifties, rue Campagne Première, personne le ramasse. Quand il tombe par terre, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Au salon de l'auto sous le dos, touche pas au Grisby du con. Dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure. Dans le train Mistral, y a un coiffeur.
I'm 50s, Alain Souchon sur France Inter et tout de suite les médias Sonia.
Merci Augustin, à
salut,
demain.
À demain.